Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode! Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
C'est bon, on est bien. C'est vrai, ça t'arrive de mélanger les...
Ouais, bah, les ça fait 18 ans que je suis aux US. Donc je pense tout le temps en anglais, je parle tout le temps en anglais. Bon, je parle français avec mon fils. Beaucoup, okay. Donc ça aide, mais c'est vrai que des fois je me perds un peu entre les deux langues, quoi. Parce qu'en fait, chaque
j'ai
langue.
J'ai pas remarqué, j'allais te demander, mais là, en se rencontrant, j'ai pas remarqué du tout.
Ouais, chaque langue a une logique différente, si tu veux. Ouais. Et donc, tu t'exprimes les choses d'une façon différente. Donc, des fois, c'est plus facile pour moi de dire les choses en français, et des fois, c'est plus facile en anglais.
Okay.
Et, mais par exemple, quand j'ai fait mes études à l'étranger, bah, j'écris mieux en anglais qu'en français.
Okay.
Mais après, si je révise mon texte et que je le traduis en français, j'arrive à l'écrire d'une façon plus précise et plus concise.
Okay.
Et donc en fait c'est bizarre en fait, ces deux langues sont très complémentaires en fait.
Ouais. Bon, ouais. Ça t'a servi d'avoir deux langues quand t'as fait ton TED Talk?
Ah ouais, ouais.
On est direct dans le vif du sujet. Allez,
ah ouais, voilà. C'est parti. Ouais, le TED Talk, je l'avais fait à Berkeley, donc l'Université de la Californie. Donc déjà, c'était super intimidant, quoi. Ouais. Une audience de 2000 personnes et tout. Et en plus, ils m'ont mis comme
c'est l'université.
Voilà, c'est une des plus grandes universités américaines. C'est la plus grande université de la Californie. Et ils m'ont mis comme le dernier speaker, quoi, pour la journée. Et ouais. Mais ce que j'aime beaucoup avec l'anglais, c'est une super langue pour conceptualiser, en fait. Tu peux vraiment faire un sommaire précis de tes idées et le structurer. Tandis que le français a plus de nuances, donc c'est plus facile de se perdre dans la description d'un sujet ou quoi. Mais l'avantage, c'est que tu peux être beaucoup plus précis. Je pense que le français est une langue d'analyse et l'anglais est une langue de synthèse.
Ouais, bien dit. Très bien résumé. Je suis d'accord. Alors, on va commencer un petit peu, on va revenir de toute façon sur le TED Talk, sur plein d'autres sujets et tout, sur ta paternité aussi. Mais la première question, c'est un peu la tradition sur ce podcast, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Mon premier souvenir de sport, j'avais 4 ans en ski sur la piste de Lavena, donc à Saint-Gervais. Et il y avait une ancienne monitrice de ski qui s'appelle Annette.
Elle a une grosse voix comme ça, et tous les enfants avaient peur d'Annette.
Mais Annette avait un gros, gros, grand cœur, elle était adorable, elle se mettait des rubans dans les cheveux et tout, c'était un amour. Mais derrière la grange de Annette, il y avait un grand tremplin de ski, tu vois, un gros saut. Et quand t'as 4 ans, c'est intimidant, quoi. Mais c'est là que j'ai commencé à faire mes premiers sauts en ski. Et je me souviens de cette sensation de skier vers l'inconnu, en fait. Parce que tu sais pas comment ça va se passer, quoi. Et je me souviens du premier saut que j'ai fait en ski, c'était derrière la grange de Annette. J'étais quoi, à 1 mètre de haut, mais j'avais l'impression d'être à 10 mètres de haut, quoi, tu vois. et tu volais à travers les airs avec tes skis comme ça. Et d'un coup, ça y est, je m'étais rendu compte que j'avais découvert la quatrième dimension, quoi. C'était un autre monde. Mais j'avais une autre réalisation aussi, c'est quand je suis atterri, je me suis pris le pavé arrière de la fixation droit dans les fesses. Et là, je me suis rendu compte que, ben voilà, le... Voler, c'est super, mais l'atterrissage peut être violent aussi.
C'est une belle école de la vie d'entrée de jeu, quoi.
Exactement, exactement. Lâche-toi, mais ça peut faire mal.
T'as tout de suite eu le virus de décoller, de prendre un peu des risques, d'aller à l'aventure?
Je pense que
T'as 4 ans quand même déjà.
Ouais, bah le virus, je pense que t'es né avec, quoi. J'ai toujours eu ce désir d'explorer, de tester un peu, découvrir le pourtour du cadre, en fait, si tu veux, de la vie, tu vois. Voilà, c'est pas nécessairement la limite, tu vois, c'est vraiment mais savoir quelles sont les possibilités, quelles sont tes capacités. C'est cette découverte, mais ça m'a toujours rendu super curieux de savoir ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, est-ce que je peux faire moi dans un environnement qui est déterminé, et comment tu peux un peu le redéterminer en quelque sorte, si tu veux. Établir un peu tes propres règles de vie. Et je me souviens, mon premier gros saut, j'avais 6 ans, c'était un plongeoir de 10 mètres à la piscine. Ça, c'était mon premier grand vol, quoi. Et moi, à 6 ans, tu vois, ça, 10 mètres, ça fait super flipper, quoi. Je me souviens, quand j'étais en l'air, je me suis dit, ça y est, c'est ça.
Mais qu'est-ce qui fait que tu étais aussi précoce dans l'aventure, le risque? Tu vois, moi, la première fois que j'ai fait un plongeoir à 10 ans, un plongeoir de 10 mètres, et encore, j'habite, tu vois, en région parisienne, je suis juste à côté de Nogent-sur-Marne, tu vois, c'est une des rares piscines olympiques que tu as en Île-de-France.
Ah ouais.
Et il y a un plongeoir de 10 mètres et il y a même 12 mètres, tu peux faire.
Waouh.
Mais j'habitais juste à côté, donc tu vois, c'était accessible pour moi, c'était à 2 km de chez moi et tout, donc je pouvais facilement faire. Mais j'ai dû le faire à 12, 13 ans, tu vois, je l'ai pas fait avant. Et déjà à 12, 13 ans, je faisais partie des plus jeunes, tu vois, qui y allaient. Mais toi, 6 ans, c'est quoi, c'est tes parents qui t'ont donné ce goût-là? Tu sais pas trop, c'est...
Je crois que j'avais toujours ça à l'intérieur de moi. Je me souviens, je sautais de mon lit à 4-5 ans. Je m'étais cassé le bras, mais j'avais un plâtre pendant quelques semaines parce que je sautais trop sur mon lit. Et puis d'un coup, ça m'avait... il y avait un ressort qui avait dû péter dans le matelas. Et comme ça, je me suis fait éjecter du lit et j'étais éclaté dans ma poubelle, dans ma chambre, et je m'étais fait mal au bras. Mais j'ai toujours eu ça. Enfin, si tu veux, j'étais toujours un petit diable, quoi.
Et tes parents, ils sont pas comme ça?
Non, pas vraiment. Enfin, mon papa était dans... Il avait fait son service militaire dans le 9e choc. donc dans les commandos. Donc il a fait une centaine de sauts en parachute, mais c'était le service militaire, il n'avait pas le choix. Hein. Ouais. Il a fait 2 sauts en chute libre, c'était que des sauts en automatique. Mais après, c'est vrai, quand j'étais petit, j'ai grandi avec les histoires de l'armée de mon père, quoi. Et je pense que ça a dû déclencher un esprit d'aventure, une curiosité. Et alors que mon père, c'est pas du tout c'est pas un casse-cou. Enfin, tu vois, enfin, après, moi, je ne suis pas un casse-cou non plus, mais je fais des trucs engagés ou risqués, mais qui sont dans un environnement dangereux. Bon, on va en parler plutôt plus après, mais je pense que c'est les histoires de mon père qui m'ont rendu super curieux par rapport au parachute et tout. Mais pour moi, en fait, c'est même à 4 ans, je me souviens, je me faisais mes propres petits parachutes avec des sacs plastiques et mes G.I. Joe, je les lançais dans la cage d'escalier, quoi. Ouais. J'ai toujours été obsédé par la gravité, quoi. Sauter, tomber, voler, quoi. Ça m'a toujours intrigué à fond. Et je savais que j'allais sauter en parachute dès que j'avais 3-4 ans. Je m'en souviens, quand j'étais petit, un jour je ferai du parachute, quoi. Ça, c'était sûr.
Et ça a mis combien de temps avant de se réaliser ?
Mon premier saut en chute libre, j'avais 22 ans. Ça a pris du temps. Je voulais commencer plus tôt, mais je m'étais pété les croisés 2 fois en ski. Et puis, donc, j'avais pas, tu sais, entre récupérer tes blessures, tout ça, machin. Mais après, en ski, mes premiers gros sauts en ski, tu vois, faire des saltos sur des barres, tout ça, machin, j'ai commencé ça à 15 ans à peu près. Moi, à l'époque, maintenant, c'est rien, hein, les gamins font ça tout le temps, mais à l'époque, il n'y avait personne pour nous coacher, quoi. J'avais des skis de géants et des chaussures avec 120 flex, quoi, tu vois, et puis allez, on y va. Je m'étais cassé le sternum 4 fois en 2 ans, quoi, en apprenant tout seul. J'avais des potes, tu vois, j'avais un pote qui savait faire des backflips, alors il m'a dit comment les faire. Mais les front flips, c'était comme ça, je me suis démerdé tout seul, quoi. Donc c'est venu avec beaucoup de dégâts.
Mais surtout que maintenant, maintenant, on voit très souvent, tu vois, des ballons ou des, comment dire, des matelas gonflables, tu vois, pour les réceptions de saut, mais... Ouais, 20 ans en arrière, il y avait pas tout ce matos-là.
Il y avait rien, en fait, fallait attendre un jour de puff. Et quand tu avais un jour avec plein de poudreuses, on faisait des gros tremplins et là, tu pouvais te balancer, quoi. Et puis si tu ratais assez sur le dos, et tu vois, si tu as 30-40 cm de puff, tu sens pas grand-chose. Mais tu peux quand même te faire mal. Ouais, au limite, Mais donc après, c'était les jours de puff, c'était génial parce que c'est là qu'on pouvait essayer des trucs. Mais fallait bien les replaquer dans la puff parce qu'après... Tu vois, une semaine plus tard, ça allait être béton et là, il fallait bien le replaquer, quoi. C'est vrai que la phase d'apprentissage était assez restreinte.
Faut faire gaffe, ouais. Mais moi, j'ai fait beaucoup de roller et de skate, tu vois, en étant plus jeune, tu vois.
Cool.
Et c'est vrai que la prise de risque, elle est différente parce que quand tu vas dans une rampe, tu sais tout de suite que ça va être hyper engagé et que t'as pas beaucoup d'autres solutions. Alors, il y avait Roller Park Avenue à Ivry-sur-Seine, où tu avais un énorme bac de mousse. Et c'était le régal parce que t'avais un tremplin, tu pouvais faire des backflips, tu vois, un peu comme les gymnastes dans des gros bacs de mousse, tu vois, ou comme les skieurs. Mais dès que t'es arrivé dans la rampe, il y avait un truc où...
C'est du sérieux, quoi. Tu peux pas te planter. Tu sais, mon fils fait beaucoup de skateboard et à 6 ans, il dropait déjà du vert, quoi, tu vois, 2-3 mètres, quoi. Mais là, ça fait flipper, hein, quand tu vois un petit garçon comme ça sur un mur qui est même plus vertical, qui est genre surplombant, quoi, en skate, et qui va dropper, quoi. Tu dis, putain, là... Mais là, je me souviens, un jour, il me regarde, il met son skate sur le coping et tout, il me fait, tu vois, papa, là, si tu tombes, tu vas droit à l'hôpital. Et là, il drop, il leur flaque parfait, quoi. Je dis, bon, c'est osé, quoi. Mais bon, après, tu vois, c'est... Il fait du skate depuis qu'il a 4 ans, il a un coach de skate, il passe par un programme qui lui apprend à faire tout ça. Et donc, c'est vrai que la génération de maintenant a une longueur d'avance. Parce que justement, ils peuvent bénéficier du carnage qu'on a survécu. Et c'est ça qui est beau aussi avec ce sport, c'est que, enfin, ce sport, ces sports, tu vois, le ski, le skate, le surf, les sports d'action, quoi. Mais parce que t'as un côté de mentorat, quoi, tu vois. Tu passes un peu cette tradition, ton savoir-faire à un gamin, et puis le gamin, après, il va faire ce que tu fais, mais 10 fois mieux, quoi. 10 fois plus gros. Et c'est magnifique, quoi. En fait, c'est un héritage que tu peux transmettre. Et moi, je trouve ça magnifique. Ouais. Et puis surtout en base jump, c'est comme ça que tu apprends. Je veux dire, souvent, tu as des écoles de base jump et tout, mais souvent, tu as un pote qui fait du base, qui a appris un autre pote, et tu as quelques sauts en chute libre, et on va t'amener une falaise ou un pont, et puis allez, vas-y, quoi.
Tu testes.
tu testes pas. On peut pas tester le base.
Ça t'y arrive ou t'y arrive pas.
Voilà. Tu le fais ou tu le fais pas. Il n'y a pas d'essai. Mais c'est comme Yoda, quoi. Tu vois, do or do not, there is no try. Mais ouais, non, mais c'est ça qui est beau parce que tu te rends compte de la valeur du truc et de l'investissement humain, en fait. Moi, à chaque fois que je plie mon parachute, je pense souvent à ça. Chaque partie du parachute que je plie ou chaque suspente que tu organises, que tu places bien, et bah, tout ça, c'est venu avec plein de gens qui sont morts, plein de gens qui se sont fait mal, des années et des années de découvertes. Et maintenant, on peut bénéficier de tout le travail des pionniers, quoi, qui ont pu vraiment établir ça pour que tu puisses en profiter maintenant et que maintenant, c'est pour ça qu'il faut amener ça à un niveau plus élevé aussi, quoi. Et puis après, justement, je suis sûr qu'il y a un gamin qui regarde ce que je fais là et qui dit « bon, bah, Giro, il est cool, mais moi, je vais faire 100 fois mieux, quoi.
» Toi, c'était qui tes sources d'inspiration quand tu étais plus jeune?
Bah alors moi, ça a commencé à 9 ans. J'avais vu un film « Pushing the Limits », ouais, de 1992, qui était vraiment, je pense, le premier film un peu extrême de masse, quoi. Je suis allé au cinéma le voir 4 fois, jusqu'à ce que ma maman pète les plombs, parce que je pense qu'elle sentait qu'elle perdait le contrôle de son fils et il était déjà attiré par une culture qu'elle n'approuvait pas. Et donc, c'était le personnage principal du film qui s'appelait Xigor Copeland, qui était joué par un Américain, Mark Twight. Et ce film a changé ma vie parce que pour moi, je voyais ces hommes des hommes, des adultes, mais qui prenaient des risques tels que ça paraissait complètement fou à la plupart des gens, mais ils faisaient ça tellement professionnellement, quoi. Ils s'entraînaient, ils faisaient ça, ils calculaient tout, ils faisaient ça bien. Bon, bien sûr, c'était un film des années 90, c'était super cheesy et tout, tu vois. Mais en même temps, moi, je trouvais ça vraiment leur approche qui était super méthodique et tout du truc. Et moi, ça m'inspirait, quoi. Et en fait, ouais, en voyant ça, je savais que je faisais partie de cette tribu, mais qu'il fallait que je mérite ma place dans la tribu.
T'as brillé, quoi, voilà. Du côté obscur.
Exactement. Ouais, après, je sais pas, c'est côté obscur, mais ouais, bon, ouais, c'est un peu dark. Mais, bon, ouais. Ouais. Mais après, si tu sais, quand tu apprends à faire du ski dans le pays du Mont-Blanc, quoi, tu grandis avec les histoires de Boivin, de Valençant, enfin, tous ces grands noms, quoi. Après, tu vois, je pense que moi, Jean-Marc Boivin, c'est quelqu'un que je respecte à fond parce qu'il faisait tout, quoi. Parapente, base, ski de pente raide, super ski. Enfin, je veux dire, on a la chance d'avoir cet héritage, mais super riche, quoi, ici dans le pays du Mont-Blanc, qui a influencé et inspiré le monde entier. Et donc, je pense qu'en grandissant avec ces histoires de ces légendes, de ces pionniers, et puis après voir des images un peu choc, tu vois, les premières images de ski base que j'ai vues, c'était dans le film Pushing the Limit, tu vois. Donc c'est ce qui m'a motivé. Je savais que j'allais faire ça avec ma vie. Je savais pas si ça allait être un boulot ou quoi, mais tu te poses pas cette question. En tant qu'enfant, tu dis, voilà, ça va être ma quête et je vais faire ça, quoi. Et c'est ma direction. Et puis après, bon, quand j'ai déménagé aux US, j'ai eu la chance de rencontrer Shane McConkie, qui est devenu un de mes mentors.
C'est important d'avoir un mentor quand tu fais un sport extrême.
Ouais, c'est super important d'avoir un mentor parce que... Bah souvent, les mentors ont été des pionniers aussi dans un aspect du sport où on a découvert des trucs. Et ils ont surtout survécu des situations que personne d'autre n'a confrontées. Et à part eux. Et donc, du coup, ils peuvent te transmettre un savoir qui va probablement te sauver la vie un jour ou un autre. Tu vois. Bah, Shane, d'ailleurs, m'avait donné un conseil. S'il y a un front flip qui ne se passe pas bien en ski base jump, et que tu t'emmènes la bride autour du bras, ce qui peut arriver... Il dit, voilà, alors bouge ton bras comme ça, machin. Et il a pris 1 heure au téléphone pour expliquer comment le faire. Et l'année d'après, Shane est décédé en ski base. Et après son décès, je suis allé sur le Mont Hood faire un saut en ski base. Et j'ai eu exactement ce problème sur une barre de seulement 70 mètres avec la bride qui s'est entortillée autour de mon bras.
Merde.
Et je me souviens, je tombais. Et dans ma tête, j'ai eu cette voix qui me disait, genre, bouge ton bras. Et j'ai bougé mon bras, et en fait, je me suis souvenu des mots de Shane. En fait, c'était ça, c'était genre Shane a dit bouge ton bras, quoi. Tu vois ce que je me suis dit. J'ai bougé mon bras et j'ai ouvert super bas, j'ai ouvert à 7-8 mètres du sol. J'ai cru que j'allais taper, quoi. Mais j'ai ouvert au dernier moment au-dessus d'un rocher, puis après, ça tombait un peu derrière. J'ai eu 8 secondes sous ma voilure, puis j'ai pu me poser. Et tu vois, ça, c'est même si Shane était décédé déjà à ce moment-là, bah, ce savoir qu'il m'a transmis après une conversation téléphonique, hein, tu vois, de 1 heure. Bah, ça m'a sauvé la vie ce jour-là. Donc ça, c'est super important d'avoir un mentor. Parce que si tu as la chance d'avoir un mentor, tu as la responsabilité de transmettre ce savoir aussi. Et un jour, de devenir un mentor toi-même aussi.
Mais c'est une des questions que j'allais te poser, justement. Tu mentionnais un petit peu ta maman qui avait un peu peur et tout. Ça n'a jamais été un frein pour toi, tes parents, tu vois. Ils t'ont poussé, ils t'ont accéléré, ils ont essayé de te retenir. Tu vois, et toi, aujourd'hui, La deuxième question que j'ai envie de te poser là-dessus, et tu as mentionné ton fils et comment tu réagis. Qu'est-ce que tu as envie de refaire et qu'est-ce que tu n'as pas envie de refaire? Parce que tu as forcément un esprit paternel, tu vois, qui a envie de protéger ses enfants et de lui indiquer la bonne voie dans laquelle aller, tu vois.
Ouais.
C'est dur, tu vois, c'est dur à dire de à quel point il faut protéger un enfant, à quel point il faut le pousser, à quel point il faut lui donner de la liberté.
Ouais, non, bah, c'est compliqué tout ça. Bon, bah, déjà, donc, la famille à la base, pour moi, c'était encore plus une source de motivation parce que j'avais un environnement très instable à la maison, tu vois. Mon père était un homme très, très, très doux et attentionné, mais très distant en même temps, tu vois. Il s'occupait de nous, mais pas trop. Mais c'était quelqu'un de posé et très, très gentil. Mais ma mère, c'est plus compliqué. Ma mère, c'est la définition d'une narcissiste abusive, quoi, tu vois. Donc pour moi, c'était un environnement super instable et étouffant à la maison. Mais après, tu t'en rends pas compte quand t'es enfant, en fait, si tu veux, parce que tu questionnes pas tes parents, quoi. Donc j'ai des sœurs plus âgées. Ma plus grande sœur a 12 ans de plus que moi, donc c'était elle un peu vraiment ma vraie maman, si tu veux. Et après, j'ai des sœurs jumelles de 9 ans de plus. Et donc, du coup, moi, j'étais un peu le petit prince, le dernier, tu vois. Donc, je faisais un peu ce que je voulais, même si...
joli petit canard. Ouais, le joli vilain ouais, petit le canard.
Voilà, exactement. Mais bon, après, j'avais quand même beaucoup de liberté. Et puis, j'avais tellement d'énergie. Et puis, tu vois, mes parents m'ont eu beaucoup plus tard que mes sœurs. Donc, je pense qu'ils ont un peu... Pas abandonné, mais ils m'ont laissé faire quand même pas mal. Mais c'est vrai que... L'ambiance était tellement suffocante à la maison que pour moi, non, c'était... Et sans m'en rendre compte, parce que quand t'es petit, tu peux pas l'analyser, ce truc, tu peux seulement le ressentir.
Ouais, tu le vis.
Et ouais, tu le vis, c'est tout. Et donc, du coup, moi, je vivais, c'est tout, quoi. Je prenais mon vélo, je partais, je me souviens, à 9 ans, je partais tout seul en vélo en montagne pendant 5-6 heures, quoi.
Ouais, juste pour pas être à la maison, quoi.
Bah, c'était pas que pour pas être à la maison, c'est pas dans ma tête, je me disais, bah, je veux pas être à la maison, c'est que non, je voulais faire quelque chose de spécial avec ma journée, quoi. Je voulais vivre ma vie, quoi. Je voulais que ça compte. C'est pour ça aussi, je pense, quand j'ai vu ce film de Pushing the Limit et puis entendre les histoires de toutes ces légendes de la montagne, pour moi, c'est des personnes qui avaient compris le sens de la vie. Et c'est ça qui m'avait inspiré, en fait.
C'est quoi le sens de la vie, du coup?
Bah, c'est la réalisation de soi, je pense. C'est, tu vois, c'est trouver ce qui te botte le plus et de dédier ta vie à tes passions. La passion a un sens à la vie. Après, ça, c'est pour moi. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui ne seront pas nécessairement d'accord. Mais que ça soit...
Que ce soit
ta passion, que ce soit le sport, que ce soit rencontrer l'amour de ta vie. Enfin, je veux dire, ça, c'est des choses auxquelles tu as envie de te dédier. Ouais. C'est des choses auxquelles, que si tu les aimes véritablement, c'est des choses auxquelles tu serais prêt à mourir. Et donc, ça lui a un sens à ta vie. C'est une quête existentielle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris très tôt. Même si je ne pouvais pas l'exprimer, en tant qu'enfant, je le ressentais et je l'avais compris. Et pour moi, c'était indéniable. Et après, tu vas à l'école et tu fais tes devoirs et tu dois faire tout ce que tu es censé faire pour respecter les étapes pour mériter ton émancipation. Moi, je me sentais toujours un peu, pas en conflit avec ça, mais en décalage. Et donc, du coup, c'était toujours jongler les deux, tu vois. Jongler un peu tes obligations de la société, entre guillemets, tout en ayant le courage de respecter tes obligations existentielles. Donc voilà, c'est ça ce que j'ai trouvé. Ça, c'est pour ça que j'étais le gamin qui avait 12 de moyenne, satisfaisant mais peu mieux faire. Parce que je savais que voilà, ouais, j'aurais pu avoir, je pense, 15, 16, 17, 18 de moyenne si je voulais. Mais je sais que voilà, si je faisais ça, bah, y a un gros prix à payer. Et le prix à payer, c'est que je ne pourrais pas faire du ski ou tous les sports qui m'ont aidé à me développer en tant que personne à côté. Et donc c'est ça, en fait, je pense que c'est ça qui est difficile dans la vie, hein. C'est trouver cet équilibre entre ton sens du devoir envers l'environnement et les autres, et le sens du devoir envers toi-même.
Ouais, exactement. Et puis toi, tu as eu cette chance, tu vois, de trouver ta voie hyper vite, d'avoir des rêves hyper jeunes, tu vois. Là où, tu vois, moi je vois plein de gamins, j'aime beaucoup la transmission aussi, tu vois, et dire à ces gamins, tu vois, moi je vais dans les écoles et je leur dis, mais essayez des choses. Testez, si vous vous plantez, c'est pas grave. En fait, ce qui compte, c'est de trouver votre voie, en fait, de trouver ce qui vous fait vibrer. Et il n'y a pas de jugement. Si c'est aller dans la montagne, aller dans la montagne. Si c'est faire de la comptabilité, faites de la comptabilité. Mais testez jusqu'à temps que vous trouviez le truc qui vous fasse vraiment vibrer, quoi.
Ouais.
Tant que tu ne trouves pas, je pense que c'est frustrant. tu vois, pour les autres. Et une fois que tu as trouvé, c'est une espèce de délivrance, quoi.
Mais après, je ne sais pas si on peut trouver sa voix. Parce que la voix, c'est, elle te trouve un peu entre guillemets. Mais si tu activement, tu la cherches, tu dis « Quelle est ma voix ?» Bah, tu ne vas pas la trouver. Comment ? Aujourd'hui, je veux être heureux. Je vais tout faire pour être heureux. Bah non, tu vas, le bonheur disparaît dès que tu essaies de le poursuivre. Ouais. Tu vois, c'est comme un animal sauvage, quoi. Ça arrive ou ça n'arrive pas. Mais je pense que c'est pas trouver sa voie, je pense que c'est avoir le courage de se créer. Je veux dire, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas. Chaque personne qui est vivante sait ce qu'elle aime ou sait ce qu'elle n'aime pas.
Mais t'es sûr de ça?
Bah, moi, je pense que
y a
tout le monde.
Qui se connaissent pas. Hein.
Moi, je pense que tout. Ouais, mais je pense qu'au fond, ils le savent. Bah, ils aiment ce genre de musique, pas ce genre de musique. Pourquoi? Bah, voilà, bah, c'est déjà quelque chose, tu vois. Je veux dire, mais savoir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, c'est le début. Si tu sais ce que. Bah, déjà, sur quels sont tes penchants personnels, tu vois, par rapport à tes goûts, par rapport à ce qui t'attire ou ce qui te répugne, quoi. Et bah, en fait, tu vas pouvoir déterminer un peu le paramètre de ta vie qui va te permettre d'établir un chemin ou de trouver un chemin. Hein. Peut-être que le chemin a déjà été établi par quelqu'un d'autre. Et puis, c'est pas faire du copier-coller, mais c'est utiliser un bout de chemin de quelqu'un d'autre pour créer ton chemin aussi. Ça sert à rien de se chercher. Il faut juste se créer. Et se créer, ça vient avec... bah voilà, essayer, quoi. Tu vas essayer de plein de choses et tu vas savoir ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. C'est pas compliqué, hein, à la fin. Parce qu'en fait, en fin de compte, c'est que...
C'est ça.
Il y a que deux choses qu'on peut espérer dans la vie, hein. Quelle que soit la définition de chaque individu, c'est d'avoir une belle vie et une belle mort. Si t'as les deux, t'as gagné.
T'espères avoir une belle mort ?
Ah bah ouais, carrément.
C'est quoi une belle mort ?
Une belle mort. Déjà, pas trop de souffrance, je pense, physique, ouais. Tu vois. J'en parlais justement, juste avant de faire ce podcast, d'Adrien Duvillard, grand skieur mégevant, qui a eu une mort parfaite, quoi. À 83 ans, 84 ans, il est mort avec ses chaussures de ski au pied. Il a eu une crise cardiaque, je crois, sur sa piste préférée en son domaine skiable. Alors ça, c'est une mort magnifique, quoi. Il est mort dans ses chaussures de ski sans nécessairement avoir eu un accident horrible et traumatique et traumatisant et décédé à 30 ou 40 ans ou 20 ans, tu vois. Non, le gars a eu une vie complète et il est mort dans ses chaussures de ski. Ça, c'est une belle mort, tu vois. Une belle mort, si je peux... Si je peux m'éteindre face au Mont Blanc dans un alpage et voir toutes les voies que j'ai pu skier et devant la montagne qui m'a appris l'amour et le respect, bah ça serait une belle mort.
Ok, c'est tout ce que je te souhaite. Non mais tu vois, c'est marrant.
Bon, bien sûr, avec au bras de ma dulcinée, bien sûr. Hein. On meurt ensemble en s'embrassant et en se serrant dans les bras comme les amoureux de Pompéi. Voilà, c'est ça, il faut être romantique aussi.
Exactement. Il faut être romantique. C'est très romantique la montagne, tu vois. C'est un des endroits les plus romantiques où... À la fois, tu te sens petit et en même temps, tu te sens immense. Tu te sens connecté et tu te sens aussi libre de toute contrainte, tu vois. Donc, c'est un endroit qui est tellement beau, tu vois. Je trouve, moi, c'est ça que j'adore avec quand je vais justement à la montagne et que je rencontre des gens qui vivent ou qui ont un attachement particulier, c'est que tu sens que ça te file une énergie supplémentaire, tu vois, dans ta vie et que tu as une connexion en plus, quoi. Je trouve que spirituellement, ça t'élève un peu, tu vois.
Ah bah, 100%. C'est quelqu'un d'ici de Megève qui avait dit une fois, je crois que c'est un médecin qui fait beaucoup de randonnées et tout, mais je ne sais pas le nom de la personne, mais cette personne a dit quand je vais en montagne, je monte avec des questions et je reviens avec des réponses. C'est ça, en fait, si tu veux, c'est une aventure extérieure qui va déclencher une introspection, tu vois. Et tu réfléchis à tout. Et pour moi, je pense que une des plus grandes leçons que j'ai apprises en montagne, c'est l'acceptation de soi-même, quoi, et de sa vie. Parce que tu te connectes complètement à ton environnement, tu connais ta place, mais en même temps, tu ne perds pas ton sens de tes désirs, ton sens d'ambition, de réalisation de soi, mais tout en étant remis à ta place par les dangers, par ce que la montagne peut te faire ou ce qu'elle te... ce qu'elle te met devant toi, qui va te mettre à l'épreuve physiquement et mentalement, tu vois. Et donc, tu n'as pas le choix, mais de connaître ta place quand tu es en montagne. Et puis, si tu ne connais pas ta place, de toute façon, tu ne vas pas survivre. Donc, c'est comme ça. Et donc, en fait, c'est nécessaire aussi. Et pour moi, c'est la connexion entre, tu vois, cet esprit moderne qu'on a développé avec un intellect moderne, tu vois. On fait des maths, on conduit des voitures, on sait analyser des situations. Mais souvent, on oublie un peu notre connexion, on oublie un peu nos émotions. Je pense qu'on insiste tellement sur cette intelligence tu vois, mentale qu'on oublie l'intelligence émotionnelle aussi à l'école, tu vois, les choses comme ça. Et la montagne, t'apprends à allier les deux. C'est ça, être un être complet. C'est être une personne rationnelle, mais en même temps émotionnelle.
C'est marrant, tu vois, là où beaucoup de gens ont vachement peur de la mort, toi, tu as l'air de l'avoir acceptée, tu vois. Elle est un peu à côté de toi. Moi, je pense que si on demande à 99% des gens, tu leur demandes, comment est-ce que tu aimerais mourir ou est-ce que tu as une définition de la mort, tu vois, ils seraient incapables de répondre. Moi, j'admire ça chez toi, sur cette capacité à dire, mais ouais, moi, je veux ça. Tu la côtoies, tu vois. Tu le frises de temps en temps, tu le touches du bout des doigts. T'en as plus peur, du coup ?
J'ai accepté la mort il y a longtemps. Mais je pense que, ouais, j'ai toujours... bien sûr, j'ai de l'anxiété, c'est ce qui me garde en vie, tu vois. Bien sûr, j'ai de la peur. Moi, j'ai peur tout le temps en montagne, hein. Chaque fois. Ouais. Ouais, à chaque fois, ouais. Mais en même temps, quand tu as peur, mais que tu acceptes ta place en montagne aussi, tu... Bah, c'est le chemin de la transcendance nécessite la sérénité. Et quand tu as cette sérénité face à des situations critiques ou qui font super peur, quoi, mais que tu arrives à les approcher de façon calme et posée, tu ne peux pas approcher ces situations de façon posée si tu n'acceptes pas ta mort. Avant chaque saut en base jump, je fais toujours un peu une liste des pour et des contre. Je me demande à chaque fois, avant chaque saut, si j'accepte le risque. Et si je n'accepte pas le risque, je ne saute pas. Donc okay. À chaque fois que tu vois un saut, donc pour l'instant, j'ai accepté le risque.
Il y a quoi comme critère ?
1400 fois.
Wow. 1400 fois en base jump ?
Non, j'ai que...
Après, tout moi, confondu.
Ouais, tout confondu. 50-50 base jump, je suis libre. Quoi. Mais je devrais avoir beaucoup plus de sauts en base. Là. Mais en fait, tu vois, je fais beaucoup de ski l'hiver. Après, je fais du ski base. Et puis après, en fait, je saute que... à fond en base, genre un tiers de l'année, tu vois. Parce que le reste de l'année, je m'entraîne ou je fais d'autres trucs. Ou alors, tu vois, l'automne, je saute pas trop parce que les conditions commencent à changer, tu te prépares pour l'hiver, tout ça. Non, en fait, si tu veux, c'est... Ouais, mais des fois, je pars, je vais me faire un trip et je me fais 50 sauts en une semaine, tu vois. Donc ça arrive, quoi.
T'arrives à garder pendant une semaine cet engagement qu'il faut, tu vois. J'en parlais justement avec Kevin Roland, tu vois, et il me disait, tu vois, dans certains sports extrêmes, lui, en tout cas, avait du mal, tu vois, reproduire un effort hyper engagé plusieurs fois dans une même journée parce que ça te lessive, quoi, tu vois, ça te...
Ouais, non, c'est prenant. Après, si tu fais 30, 50 sauts en une semaine, j'ai fait quoi, 30 sauts en deux jours une fois. Mais quand tu fais un truc comme ça, déjà, tu te prépares, tu t'entraînes ou tu te prépares déjà mentalement, tu vois. Mais je pense que ça, ouais, c'est pas quelque chose que tu peux faire tout le temps. Mais ça revient justement au concept de la mort dont on parlait tout à l'heure, c'est le memento mori, quoi. Souviens-toi de ta mort. Parce que la mort est ce qui donne la valeur à la vie, bien sûr. Tu vois, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai, quoi. C'est, si tu réfléchis, la mort est la seule chose qui connecte chaque personne sur cette planète.
Ouais,
c'est la seule chose qui connecte tout le monde. Quelle que soit ta culture, quel que soit ton âge, quel que soit tes goûts, la mort est le seul dénominateur commun. Et c'est ce qui donne la valeur à tout. Parce que Putain, ça serait chiant d'être immortel quand même. Parce que tout perd sa valeur. Ouais, c'est bon. De toute façon, je vais vivre pour toujours, on s'en fout, quoi.
Je peux recommencer demain.
Ouais, non, exactement. Non, 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 voilà. Là, tu dis, non, écoute, mec, chaque seconde qui passe, là, qu'est-ce que tu fais de ta vie ? T'abandonnes déjà ? Ou t'as déjà essayé de vivre ta vie ? Ou t'as déjà abandonné ? Ou alors, est-ce que tu fais vraiment ce qui est important pour toi et pour les personnes qui sont autour de toi aussi ? Savoir trouver cet équilibre entre être là pour les personnes que t'aimes et savoir te créer toi ? Bah encore une fois, moi je pense que tout revient à ça et je pense que ce rappel de la mort c'est super important, quoi. C'est très sain en fait.
Ouais.
Et je pense que ce qui est malsain, c'est de ne pas réfléchir à sa mort, de ne pas penser à la mort. Moi je me souviens, hein, j'étais vraiment curieux du concept de la mort, d'essayer de comprendre ce que ça représente ou de la définir dès l'âge de 4 ans, quoi. Je me souviens, je me mettais au lit et je fermais les yeux, tu vois. Un soir particulièrement, j'étais au lit et j'ai... Tu sais, quand t'es gamin et qu'on te dit « Allez, là, tu dois faire dodo. » Tu te mets au lit et tu fais de ton mieux pour faire dodo, mais t'es pas fatigué, tu vois. Alors t'es au lit avec tes peluches et tout, là, et tu fermes les yeux.
Et on t'apprend pas à, tu sais, faire de la cohérence cardiaque ou essayer de t'endormir. Non, fais dodo.
Ouais, ouais. Bon, allez, au lit, basta, hein, là, il y en a marre, fais dodo. Alors je me souviens, j'étais au lit et je ferme les yeux et là, je... impossible de dormir, tu vois. J'ai dû rester comme ça, les yeux fermés pendant genre une demi-heure ou une heure. Et je me dis, mais c'est comme ça quand t'es mort ? T'es conscient, enfin t'es vivant, je disais pas le mot conscient à 4 ans, mais genre t'es vivant, mais t'es pas vivant, et en fait, tu vois noir pour toujours. Et tu vois, après réfléchir à ça pendant, genre, je sais pas, une demi-heure, t'es comme ça, je commence à paniquer, quoi. Je commence à pleurer et tout, machin. Et puis là, je crois qu'une de mes sœurs m'a entendu et elle me fait descendre en bas pour voir ma mère. Et puis, là, ma mère, qui était toujours très froide et pas très, très maternelle, tu vois, elle fait « Oh, pourquoi tu pleures ?» Je dis, bah, j'essaie de dormir, mais je... Est-ce que quand t'es mort, tu vois noir pour toujours ? Enfin, tu vois, j'étais en état de panique, quoi, tu vois, ouais. Évidemment. Et puis là, ma mère hollandaise éduquée par un catholique hollandais, tu vois, mon grand-père était hardcore catholique et tout, machin. Alors elle me dit, oh ben non, quand tu meurs, tu vas au paradis. Je suis, ok. Et après, je remonte à la chambre, mais j'étais pas du tout satisfait par sa réponse. Je me dis, il y a anguille sous roche, là. C'est un peu chelou. Non, là, je sens qu'il y a une fourberie. Et je suis, après, je me remets au lit. Et puis là, je me suis dit, bah, c'est la première fois que je me suis rendu compte qu'en fait, personne ne sait ce qu'il y a après. On n'a que des suppositions. Je me suis dit, bah, clairement, elle ne sait pas ce qu'il y a après. Elle parle du paradis, mais c'est quoi le paradis, quoi ? C'est qui Dieu ? C'est quoi ce truc ? C'était un concept tellement étranger pour moi, quoi. Que je me suis dit, bah, en fait, la seule chose que je sais, c'est que je suis vivant là. Et bah, je n'ai pas le choix, mais que de réaliser mes rêves, quoi. C'est là, maintenant. Peut-être qu'il y a quelque chose de mieux après, mais peut-être pas.
Ouais, personne
sait. Donc personne sait. Donc bah vas-y. Hein. Ça sert à rien de...
Ça sert à profiter.
Ouais, ça sert à rien de glander. Vas-y, on y va. Allez, parti. Bon, de temps en temps, tu peux faire la grasse mat, mais il faut le mériter.
T'as déjà cru que t'étais mort ? Ou que t'allais mourir ?
Même quand j'y suis passé très près... Pas vraiment, en fait. Je savais que c'était une situation où fallait rectifier le tir, où fallait régler ce qui se passait pas bien. Mais pour moi, ça n'a jamais été une option. Moi, quand j'avais sauté le Cervin en ski base, j'avais tapé un rocher juste avant de sauter et j'ai pu mettre juste un petit peu d'impulsion avant de sauter. Donc, je suis parti en salto avant, à la face nord du Cervin, hors de contrôle, quoi. Et juste avant de partir, quand j'ai perdu mon ski, je me souviens, le premier truc que je me suis dit, et j'ai pensé en anglais, c'est marrant parce que bon, comme je vis aux États-Unis depuis presque 20 ans, je pense tout le temps, souvent en anglais, plus qu'en français. Et je me suis dit, don't pull a Shane. Fais pas comme Shane. Parce que Shane était donc en ski base, mais avec une wingsuit, il avait vraiment compliqué le truc, mais il n'avait jamais tiré
avec
son parachute.
Avec une wingsuit, il l'a fait.
Ouais, il sautait en ski base, en wingsuit, il enlevait ses skis. Il faisait un double salto arrière, enlevait ses skis, et après il volait un wingsuit.
Il faisait ça pendant son saut, il enlevait ses skis ?
Ouais, donc il avait un système, c'est les anciennes fixations Tyrolia qui avaient le pavé arrière qui s'aplatissait au lieu de remonter.
Ok.
Et donc c'était un système inversé. Et donc il mettait un câble relié à sa fixation et qui était attaché à sa wingsuit en velcro. Donc il partait en double salto arrière. Dans le deuxième salto arrière, il avait ses mains déjà sur ses mollets. Il tirait les câbles, donc ça enlevait les skis. Et puis après, il partait en wingsuit.
Les skis disparaissaient.
Ouais, ils disparaissaient. Donc ça, c'est le côté qui n'était pas cool. C'est que, okay. Voilà. Mais bon, tu sais, c'était une autre époque aussi. Hein. C'était le début des... Enfin, tu vois, c'était 2000, je sais pas, c'était 2004, 2005, 2006. Il est mort en 2008.
Ah, donc c'est le début là, de
c'était
des wingsuits.
Ouais. Ouais, c'était pas le début, mais c'était là où ça commençait vraiment à exploser, à prendre ouais. De l'importance. Et... niveau du ski base, tu sais aussi, et puis je pense au niveau environnemental, je veux dire, on faisait encore un peu moins attention à ce moment-là, tu vois. Moi, quand j'ai commencé le ski base, par exemple, Shane jetait ses bâtons, moi je jetais mes bâtons en montagne, quoi. Mais après, un ou deux ans de ski base, je me suis dit, ça commençait à me poser des problèmes. Alors, je commençais à faire mes bâtons en bambou, parce que au moins ça va être biodégradable. Mais après, les rondelles étaient quand même en plastique, donc j'ai dit, c'est pas top. Maintenant, j'arrive à sauter avec mes bâtons et j'arrive à les garder en ski base. Okay. Donc c'est cool, donc je laisse rien derrière, ce qui est important. Mais bon, bref, ça c'est un autre problème. Mais... Et donc en fait, ouais, donc quand Shane s'était planté, il n'avait jamais tiré son parachute parce qu'un ski s'est enlevé et l'autre est resté bloqué. Et donc il est parti en vrille, en l'air. Il a réussi après à attraper son ski avec son autre main, à déclencher la fixation. Donc la fixation s'est enlevée, mais il tombait sur son dos à ce moment-là. Donc il ne voyait pas le sol arriver. Et j'en avais parlé avec JT Holmes qui sautait avec Shane. Ils avaient mal évalué la taille de la falaise aussi. Donc il y avait plusieurs facteurs qui ont amené à cette situation, quoi. Et en fait, Shane a attendu d'être stable avant de vouloir tirer son parachute pour pas que son parachute sorte comme un torchon ou s'en mêle ou quoi, ou machin, quoi. Enfin, tu vois, qu'il y ait des torsades à fond, quoi. Bon, bref.
Il aurait dû prendre le risque.
Et en fait, ouais, il s'est retourné. Et quand il s'est retourné sur le ventre pour tirer, il n'avait plus de place et il a tapé le sol. Et donc, du coup, la plus grande critique était... il en avait parlé avec Miles Dasher, Miles de la Red Bull Air Force, un super pote aussi, parce qu'il parlait d'une situation comme si cette situation arrivait. Et Shane disait tout le temps, non, je veux être stable avant de tirer. Et Miles disait, non, il faut tirer. Dès que tu as une ouverture, tu tires. c'est mieux d'avoir quelque chose que rien, quoi. T'as plus de chances de survie. Oui, mais machin. Donc, du coup, pour eux, c'était toujours un débat, ouais, exactement. Et pour moi, en fait, quand j'ai tapé ce rocher, le premier truc que je me suis dit, c'est don't pull the chain. Et je lui dis, tu réfléchis vachement vite dans ces situations, quoi. Et je me suis dit, dès que j'ai une ouverture, je tire. Et mon front flip, j'étais au trois quarts de mon front flip, j'ai tiré. Puis après, l'inertie m'a envoyé dans un deuxième front flip. Et donc, j'ai dû faire un peu un flat spin autour de ma sangle et de mes suspentes pour pas m'emmêler les skis dedans. Et puis, paf, j'ai ouvert. J'ai eu la chance, le parachute a ouvert en s'éloignant de la falaise, pas face à la falaise. Après, j'avais juste deux, trois torsades, je les ai enlevées. Puis après, j'ai pu me poser en bas dans la vallée sur un ski, quoi. Donc là, directement, Shane m'a sauvé la vie une fois, et indirectement, il m'a sauvé la vie une deuxième fois. Ouais. La première fois, grâce à l'extracteur, en bougeant mon bras d'une telle façon que mon parachute puisse sortir. Et cette fois-ci, sur le Cervin, où sa mort m'a aidé à survivre. Et c'est ça aussi auquel je pense tout le temps. Enfin, quand, tu sais, j'ai perdu beaucoup de potes en montagne, en ski, en base jump, enfin plein de trucs, tu vois. J'ai arrêté de compter après, enfin pas tous des potes proches ou des personnes que je connais, mais j'ai arrêté de compter après 50 personnes. Donc tu perds quand même beaucoup de personnes. Mais une façon de rester pragmatique et de ne pas dramatiser la situation aussi non plus, c'est de dire que voilà, tu peux apprendre de la mort de chaque personne que tu connais. Et, ou que tu ne connais pas, si tu as accès à l'information de la situation et pour savoir dans quelle situation ils étaient, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé et comment ça aurait pu être réglé. Donc, j'en parlais avec Adam Bilecki, l'alpiniste, il est polonais, je crois, et il fait des sommets à 8000 l'hiver et tout. Et il dit qu'il porte tout le temps ses amis disparus dans son sac à dos. Donc, c'est une façon de dire que voilà, il les amène en montagne avec lui et ça l'aide à survivre. Et en base jump, c'est super important de faire ça, je pense.
Ouais, tu regardes un peu les accidents qui a pu arriver aux autres pour essayer, toi, d'emmagasiner l'information et de le retenir.
Exactement. Ouais. Après, ce qui est dur, par exemple, dans le milieu du ski base, comme moi je le fais, on n'est pas beaucoup à faire du free ride avec du base jump à la fin, quoi.
Ouais, donc, pour moi, tu étais le premier. Bah le, à l'avoir fait, tu vois.
Mais... Bah le premier, il y avait Shane, il y avait JT, il y avait Eric Rohner. Bon, Shane est décédé en wingsuit. Rohner est décédé, c'était un des mentors aussi, est décédé en chute libre. Il a atterri dans un arbre, il s'est empalé dans un arbre, malheureusement. Et après, JT, il saute encore, mais il fait un peu moins de ski base, il fait surtout du speed riding et plus de wingsuit.
Ouais.
Mais après, c'est vrai que maintenant, je me retrouve plus. Je suis pas un alpiniste à la base, mais je me retrouve dans des situations d'alpinisme pour faire mes trucs. Je ne sais pas si j'ose le dire, mais je crois que je suis probablement le seul ou un des seuls à mélanger le alpinisme, ski et base jump en même temps.
Ouais.
Donc, voilà. Mais après, c'est vrai que tu as des sauts comme le ski base du plus sommet du Mont Blanc, comme ça, c'est bon, bah, je suis le seul à avoir fait. Donc après, je sais que dans des situations comme ça, même s'il y a des gars qui se retrouvent dans des situations où ils vont peut-être mélanger ces trois disciplines, ce n'est pas nécessairement dans le même cadre. Donc voilà, mais après tu sais ça vient avec l'évolution du sport, tu vois. Au début tu rides les spots que tu peux accéder en remontée ou en pot de foie rapidement, comme les magnifiques aiguilles croches qu'on a devant nous.
Ouais.
Mais après voilà, quand tu vas faire des projets plus conséquents, et bon, des fois si tu filmes une pub ou tu fais un truc pour les sponsors machin qui est spécifique, donc des fois tu fais déposer en hélico tout ça, mais les trois quarts du temps tu montes à pied, quoi.
Ouais.
Tu fais 5, 6, 7 heures, 8 heures de randonnée pour aller skier ton truc, quoi.
Ouais, c'est la base.
Ouais. C'est génial.
C'est la face cachée du sport, quoi.
Ouais, bah c'est exactement. Et puis c'est ça, en fait, c'est que quand tu vois le saut, bah c'est juste une partie du truc. Parce qu'en fait, c'est un voyage à travers les montagnes. Et c'est ça, pour moi, qui donne une valeur complète au truc. Tu as cette situation d'ascension qui est une introspection, en fait, si tu veux. Tu t'analyses, tu absorbes, tu cogites, tu réfléchis sur ton environnement, sur toi-même, tout ça. Et c'est vachement enrichissant. Après, tu as la phase ski et base jump qui est magnifique. Hein. Tu voles sur la neige et tu voles à travers les airs. Mais après, il faut rentrer aussi. Donc après, ouais. des fois, tu tapes tu vois, genre 4-5 heures pour rentrer, quoi. Et donc, en fait, des fois, tu dois crapahuter encore un peu, tout ça, machin. Et en fait, C'est un grand voyage à travers les montagnes. C'est ça qui est beau.
Comment est-ce que tu choisis un projet? Tu vois, bon, juste après, on parlera de ce fameux saut, tu vois, mais aujourd'hui et à l'époque, comment est-ce que tu choisissais un projet?
Bah, moi, c'est simple, en fait. J'oublie pas de me laisser inspirer par les montagnes. Je regarde tout le temps, je suis curieux. Tu vois, je regarde même des photos où Et j'ai dit, ah putain, il y a ça qui serait... Oh, ça serait une ligne de ouf. Je pense que j'ai encore cet esprit assez... cet esprit d'enfant, tu vois, je pense. J'ai presque 40 ans, mais je me sens encore comme un enfant. J'ai encore cet esprit de découverte, quoi. Je suis un affamé de la découverte, quoi. Tu vois, c'est ça, je pense que c'est l'inspiration. Après, tu vois, des fois, t'as des gens qui te donnent des idées. Ah, il y a ça, t'as regardé. Après, tu fais tes recherches un peu, soit ça t'intéresse, soit ça t'intéresse pas. Donc, ça dépend. Donc, moi, ouais, c'est vachement... je fais pas un projet pour me dire « Ah ouais, ça va être cool, je vais avoir plein de vues, ça va faire une vidéo de malade. » Non, après, ouais, bien sûr, je filme tous mes sauts. Hein, et je trouve ça super cool de filmer. Il y a un aspect créatif au truc. De bien filmer un truc, c'est super sympa. Et puis après, ça te permet de revivre ce moment et aussi de le partager avec les autres. La première étape, quand tu as une passion, c'est de la vivre. Et la deuxième étape, c'est de la partager. Et donc, filmer, ça te permet de faire les deux. Mais après, faut faire attention de ne pas tomber justement dans cette... Dans une approche trop ambitieuse et narcissiste, quoi, tu vois. Donc, narcissiste. Tu vois, c'est ça le problème quand tu vis en Amérique depuis trop longtemps. Je pense en anglais, pas en français. C'est horrible. Mais bon, ouais, donc, en fait, tu vois, il faut garder les choses pures, il faut les faire bien, il faut les faire parce que justement, simplement parce que t'es inspiré et que t'aimes ça, quoi. En fait, ça revient tout le temps à l'amour, quoi. C'est tout. C'est beau l'amour. Hein.
What is love?
Exactly.
Mais écoute, je suis hyper content qu'on soit là d'ailleurs, tu vois, en face de cette montagne, parce que moi j'ai découvert, tu vois, je t'ai découvert. Mais c'est quoi, c'est il y a 11 ans, 12 ans que tu fais ce saut?
Ce spot, ouais, je skie l'Aiguille Croche depuis. Mon premier ski baisse, c'était en décembre 2009. Mais après, la deuxième fois que j'ai skié, c'est là où ça a vraiment été plus connu à travers la vidéo de GoPro qui s'appelait Avalanche Cliff Jump, où on a skié la face et il y avait une énorme avalanche qui s'est déclenchée. En fait, on a échappé à l'avalanche en sautant la barre de 200 mètres en base jump. Quoi.
Et donc, ça, je mettrai les liens parce que cette vidéo est mythique. Tu vois. Moi, j'ai découvert comme ça et je me suis dit waouh, ces mecs sont tarés, ils sont géniaux. Tu vois, et j'avais pas fait forcément le rapprochement quand je regardais ton compte et tout. Et c'est un pote à moi, tu vois, qui lui a fait beaucoup de freestyle et tout, qui me dit mais vas-y, va voir Mathias Giraud, tu vois. Et je lui dis c'est quoi son compte et tout. Et il me dit ouais, The Frenchie et tout, machin, super Frenchie et tout. Et je regarde, je dis ouais, ok, trop cool et tout. Il me dit mais si, c'est lui qui avait fait cette fameuse vidéo il y a 11 ans et tout. Donc, tu vois. Et là, je regarde, on revoit la vidéo et je fais mais ouais, j'avais regardé au moins 10 fois à l'époque, tu vois. Et c'était, ouais, mais c'était, pour moi, c'était une des premières vidéos de GoPro qui avait vraiment explosé.
C'était la première vidéo virale de GoPro, la toute première. C'était la héros.
Comment ça se passe d'ailleurs avec eux? Tu filmes et après tu les appelles et tu leur dis écoutez les gars, j'ai peut-être un truc.
Les choses ont changé avec GoPro. Hein, tu sais, ça fait quoi 12 ans que je bosse avec eux. Donc maintenant, c'est bon, y a une procédure pour faire les choses. Tu vois, tu as des projets, tu soumets des projets. S'ils peuvent participer, ils vont participer. Sinon, après, tu te fais. Après, moi, de toute façon, mes projets vont arriver de toute façon, hein, que les sponsors aient ou n'aient pas. Moi, de toute façon, c'est toujours comme ça que je suis positionné comme sportif. Quand j'approche une marque ou quoi, j'ai voilà mes projets, je vais les faire avec ou sans vous, mais si vous voulez faire partie de ça, ce serait cool qu'on bosse ensemble. Mais de toute façon, je vais le faire. Donc ça, c'est parti. Mais là, pour cette vidéo, c'était ouf parce que c'était les débuts de GoPro. Ils venaient juste... Enfin, c'était pas les débuts de la marque, mais c'était quand les choses commençaient vraiment à structurer. Voilà, ça, c'est exactement.
Et ils voulaient vraiment accélérer, tu vois.
Exactement. Et c'était la première caméra haute définition. C'était la Hero, quoi. C'était même pas Hero 1, c'était juste la Hero HD. C'était comme ça, c'était tout, quoi. Et bon, bref. Et là, on venait d'avoir un team manager, quoi, qui commençait à... mon pote Gemo, c'est un super pote maintenant, et lui c'est un vétéran du snowboard et de plein de sports, tu vois, bref, c'était un des gars qui avait aidé à lancer Gnu et Leap Tech aux US et tout. Enfin, le mec est super calé, super skieur, super snowboarder, skater, donc le mec c'est un couteau suisse, quoi, tu vois, des sports extrêmes, quoi, il peut tout faire.
C'est vraiment Gemo,
Gemo, Chris Jameson, c'est son nom, mais on l'appelle Gemo. Et bon, et là donc Gemo était notre team manager. Et là, cet hiver, j'avais un budget voyage de merde. J'avais genre 3000 euros pour voyager, pour faire toute ma saison, quoi. Tu vois, c'était un truc, j'avais aucune thune. C'était 2011. Et mon but, c'était de venir dans les Alpes pour sauter le Cervin, tu vois. J'avais toute cette liste de trucs que je voulais venir pendant 2 semaines. C'était un moment, en fait, c'était à l'époque où, c'est un peu hardcore de dire ça, mais genre, je partais dans les tripes, j'ai dit, bon, bah, j'espère que je rentre à la maison de ce trip, quoi. Tu vois, c'était même des phases de découverte pour moi où j'avais tellement la hargne et l'envie d'y aller que j'y allais à fond, quoi. Et j'étais prêt à ne pas revenir, quoi. Tu vois, c'était vraiment, allez, on y va, c'est tout ou rien, quoi. Tu vois. Mais là, j'avais été opéré du genou et j'avais eu une hernie juste quelques mois avant. Donc, j'avais recommencé à skier juste 3 semaines avant. Donc, j'avais pas fait beaucoup de ski. Je dis, bon, je vais pas aller sauter le Cervin cash. Faudrait peut-être que je me fasse un ski base que j'ai déjà fait avant pour me mettre en jambes. J'avais une nouvelle paire de skis, j'avais des nouvelles chaussures. Donc, tu vois, j'avais plein de trucs. Donc, je voulais reskier les croches pour me mettre en jambes. Et là, j'ai mon pote Stéphane. On se connaissait juste un peu comme ça. On n'avait jamais skié ou volé ensemble. Il me dit, ah, si tu refais les croches, tiens-moi au courant. Je peux voler en speedrun derrière toi et te filmer. Alors là, je l'appelle ce matin. Lui, il avait fait la bringue en plus la veille. Donc, du coup, il se lève tard et tout. Ouais, je t'en trouve à midi là-haut. Ok, ça marche. Donc, on arrive à midi et tout. Après, on monte à pied, on décroche, tout ça, machin. Et puis après, ouais, on a eu cette fameuse vidéo. Mais bon, bref, pour le voyage avec GoPro, justement, genre, comme j'avais un budget de voyage horrible, bah, je leur ai envoyé un email. Genre, est-ce que vous pouvez m'aider à juste avec un billet d'avion pour l'Europe? Parce que j'essaie de faire tous ces projets et tout. Et là, je reçois un email avec un mot. Il dit oui. Et après, je reçois un deuxième email. Le deuxième email, c'est ouais, mais t'as intérêt à filmer à fond et tout. On a payé pour aucun trip, pour personne pour l'instant. Ouais, la marque est en train de décoller, mais on peut pas se le permettre. Et là, mon manager me dit, je vais payer pour ton billet avec ma carte de crédit personnelle et je vais faire une facture de frais à GoPro après. J'espère qu'ils vont me rembourser, quoi. Je dis, putain. Il fait, ouais, écoute, là, t'as intérêt à choper des trucs de ouf, quoi. Je fais, ok, no pressure. Je dis, bah, écoute, merci. Alors, je suis arrivé ici, mais avec une pression de ouf, quoi. Ouais. Et du coup, on fait cette descente d'échauffement avec Stéphane. Lui, il n'avait jamais utilisé une GoPro en plus. Tu vois, j'avais mis le strap, tu sais, qui met autour de ta tête, autour de son casque. Il n'avait même pas le truc autocollant sur le casque. Quoi, ouais. Tu vois, je lui dis, voilà, appuie sur ce bouton, vole, essaie de ne pas mettre tes skis dans le shot et essaie d'être stable et filme-moi quand je saute. Quoi. OK, et puis là, on a cette vidéo, on fait péter une avalanche de ouf et tout, machin. Super saut, on a tout nickel et tout. Et là, j'envoie un email. Non, j'appelle mon manager à GoPro. Et je lui dis, Jemo, we just got the shot. On vient juste de choper les images. Il me fait, mais de quoi tu parles? T'es arrivé hier dans les Alpes. Je dis, ouais, je sais, mais on a eu le shot, quoi. Je t'envoie des. Je lui ai envoyé plus juste des prises d'écran. Je t'envoie des prises d'écran. Et là, je lui ai envoyé le truc. Et là, il me rappelle tout de suite. Il me fait, oh putain. Ça y est, t'as chopé le truc, quoi. Je dis, ouais, mais c'est pas fini. Hein. Attends, on va faire un serment. On a fait le serment 4 jours après. Après, on a fait des sauts à Cham. On a fait un double backflip sur une barre de 80 mètres au-dessus du glacier d'Argentière. On y allait, mais à fond de boîte. Après ce trip, j'ai pas sauté pendant un mois parce que je pense que je suis tellement lâché et donné à fond. Ah ouais, que j'ai tout lâché, quoi. Et bon, bref, après j'ai envoyé les images à GoPro et un mois après ils ont sorti les vidéos. Je me souviens, je faisais mes courses, j'étais au magasin et je reçois un email disant ouais, ta vidéo est prête. Et puis j'étais en train de faire mes courses, et puis, bon, je passe dans l'allée d'après, tu vois, puis je regarde la vidéo vite curiosité, tu vois, je vois si les vues comment ça. Et puis là, genre en 2 minutes, quoi, c'était passé de 0 à 25 000 vues. Et puis là, c'est monté. Et puis là, c'est la vidéo qui a fait exploser ma carrière. Parce que j'avais déjà fait pas mal de trucs avant, tu vois. J'avais fait le premier ski bay sur le Mont Hood. J'avais bossé avec CNN 26 fois. J'avais été 2 fois sur Good Morning America, un des plus grands shows américains. Mais ça n'avait pas eu l'impact de... Ça, c'était le début de vraiment des vidéos virales sur YouTube.
Ouais, donc c'était 11-12 ans.
Ouais, c'était avant ça. Les gens te voyaient sur la télé nationale. Mais après, ils n'avaient pas des moyens de revoir tes vidéos encore. Donc là, d'un coup, il y avait une vidéo qui était sur Internet que tu peux regarder autant de fois que tu veux, que tu peux envoyer à tes potes ou quoi, machin. Et du coup, c'était complètement organique. Hein. Ça a décollé tout seul, quoi. Cette vidéo est partie de partout, quoi. Ouais. C'était un truc de ouf, quoi. Ça a été nouvelle nationale dans 40 ou 50 pays. Tu vois, au Brésil, j'ai reçu un message à un Brésilien une fois, fait... Il m'a envoyé un message sur Facebook, un truc comme ça. Hey, c'est toi dans la vidéo de l'avalanche. On vient de voir tes vidéos. Ils t'ont appelé le dresseur d'avalanche. c'est un peu ambitieux, c'est prestigieux quand même. Ouais, donc juste au Brésil, c'était genre 20 millions de personnes qui avaient vu ça. Quoi, tu vois, cette vidéo a explosé. Ça a vraiment aidé ma carrière. Mais après, tu vois, encore une fois, c'est pas un truc. On s'est dit, ouais, on va faire ça, on va faire péter une avalanche et on va avoir des millions de vues. Non, on a fait ça parce que. Bah moi, je voulais skier bien avec des belles conditions et c'était une belle journée en montagne avec un pote, quoi. Et on a eu la chance de pouvoir capturer ces images, quoi. C'était la magie du moment, quoi.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.